Une réforme de la fiscalité de l'immobilier n'est plus tabou. L'immobilier est souvent mal aimé des politiques, mais de plus en plus d'appels fleurissent pour inciter de nouveau les investisseurs immobiliers. Bonjour Charles, on en parle avec vous. Donc des impôts sur l'immobilier. Alors c'est la patronne de Next City hein, qui a appelé à aligner les impôts sur les revenus des dividendes à ceux des revenus locatifs. Alors une flat tax finalement sur les revenus locatifs, c'est quand même le mot magique, non?
C'est le mot magique. Et puis, bonjour Aude, bonjour tout le monde. Non seulement c'est le mot magique, mais c'est que surtout, on a un immense problème, un terrible problème sur la fiscalité immobilière. Alors, faisons un tout petit peu d'histoire, remontons au début et à l'élection première d'Emmanuel Macron, l'improductif, et donc le président de la République le dit dès le départ, je vais taxer ce qui est improductif pour détaxer ce qui est productif. Et il va classer dès le départ l'immobilier dans de l'improductif et dans du non délocalisable. Et donc on va avoir une forme de matraquage fiscal. À ceci va se rajouter d'ailleurs, c'est important, la suppression de la taxe d'habitation. Et cette taxe d'habitation, qui était une assiette large, puisqu'elle elle reposait sur tous, hein, donc que ce soit les propriétaires occupants ou les locataires, c'était celui qui habitait le logement qui payait cette taxe d'habitation. Et on constate depuis la suppression de la taxe d'habitation une envolée, quasiment un doublement, pour faire simple, de la taxe foncière qui est uniquement payée par les propriétaires. Donc cette taxe foncière qui est payée par les propriétaires vient radicalement diminuer le rendement locatif. À cela, vous ajoutez que il faut que nos auditeurs comprennent comment sont imposés les revenus de la location des méchants multipropriétaires, exploiteurs de gentils locataires. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, c'est que si vous avez un petit peu de revenus et que vous êtes dans une tranche, ne serait-ce qu'à 30%, votre tranche d'imposition à 30%, eh bien là-dessus, vous rajoutez les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, donc 17,2%, ce qui veut dire qu'au minimum, les revenus fonciers sont imposés à 47,2%. Ça, c'est le minimum. La
Ça peut
réalité,
aller
c'est que
bien
ça
plus haut,
monte
et
à plus de
66, 67.
60%. Voilà. Ça monte à plus de 60% pour les gens qui sont le plus fortement imposés. Or, si vous êtes riche, si vous êtes riche, ça veut dire que vous êtes imposé dans la tranche à 41 ou 45%, auquel il faut rajouter les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, on est à 58 ou 62% environ d'imposition sur les revenus fonciers. À ceci, si vous ajoutez les taxes foncières, l'entretien du logement, que vous prenez en considération les DPE, les diagnostics énergétiques qui nécessitent de faire des travaux. Et je n'ose à peine évoquer avec vous le fait d'éventuellement rajouter les taux d'intérêt à 5% si on emprunte à 25 ans avec l'assurance. Et la coupe est pleine. Et donc, évidemment, vous n'avez plus personne pour investir dans l'immobilier. Et donc, c'est la crise que nous connaissons. Et quand on a une crise de l'immobilier, c'est pas grave, hein. Vous savez, Aude, une crise de l'immobilier, elle n'est pas grave si elle touche que les multipropriétaires qui sont riches, entre guillemets, qui ont des revenus par ailleurs, etc. Ils ne vont pas se retrouver à la rue. Le problème, c'est que si on arrête d'investir et si ces méchants multipropriétaires arrêtent d'investir, eh bien, la crise immobilière se transforme en crise du logement. Et ça, une crise du logement, c'est beaucoup moins drôle pour l'ensemble de nos concitoyens parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à se loger et qu'il n'y a pas assez de biens à la location, notamment, et c'est la crise terrible qu'on a dans les grandes villes.
Oui, c'est ce qu'on commence à voir quand même en ce moment aussi. Le marché de la location est très tendu. C'est ça qui alerte le gouvernement et qui appelle à un certain réalisme. On sait que Gabriel a fait quand même plusieurs annonces sur ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre là de la part du gouvernement?
Alors, je ne sais pas ce qu'on peut attendre, je vous le dis très sincèrement, je ne sais pas ce qu'on peut attendre aujourd'hui du gouvernement sur l'immobilier, pour une simple et bonne raison, Aude, c'est que nous sommes dans une situation financière qui n'aura échappé à aucun de nos auditeurs et spectateurs, c'est que la France, elle a 3 100 milliards d'euros de dettes et qu'avec de telles dettes, c'est compliqué de baisser la fiscalité. Pourtant, il faudrait effectivement le faire sur l'immobilier. Quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement? Quels seront les arbitrages qui vont être rendus? C'est pas évident. moment, moi j'ai surtout l'impression qu'on risque encore un alourdissement de la fiscalité. Et regardez d'ailleurs le débat du côté de nos amis américains, outre-Atlantique, on ne va pas vers moins de fiscalité, on va vers plus de fiscalité avec ce projet de Joe Biden, qui n'est pas, qui pour le moment est un projet, qui n'est pas dans les faits, mais c'est un projet de Joe Biden, un projet dans le cadre de la campagne électorale aux États-Unis, d'imposer justement les bénéfices, les plus-values, plutôt à 45%. Bon. Donc, alors que Trump avait baissé, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 25%. Donc, Joe Biden veut remonter les taux d'imposition. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut payer les intérêts de la dette, qui aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, dépasse aux États-Unis les 1 000 milliards de dollars par an. Mais pour nous, c'est exactement la même problématique en France et en Europe. Il faut payer les intérêts de la dette et donc il faut plutôt avoir plus d'impôts que moins d'impôts, ne serait-ce que pour payer les intérêts de la dette. Est-ce que des arbitrages vont être rendus en faveur de l'immobilier ? Ce n'est pas sûr. Il faudrait le faire, mais c'est loin d'être sûr. Et puis politiquement, c'est pas forcément très politiquement acceptable que de dire bon, on va baisser les impôts des méchants multipropriétaires. Alors que regardez ce qu'il se passe actuellement en Argentine, où l'offre locative a bondi de 170% dans l'aire urbaine de Buenos Aires, qui a une crise du logement épouvantable, hein, donc là, pas crise immobilière, crise du logement. Pourquoi ? Bah parce que le gouvernement argentin, sous l'aimable pression du nouveau président Milei, a tout simplement dérégulé complètement le marché immobilier. Il a supprimé les contrôles de loyer, il a supprimé toutes les règles et toutes les contraintes et tout le carcan fiscalo-administratif autour de l'immobilier. Et le résultat ne se fait pas attendre, c'est quasiment immédiat. Vous avez une envolée de l'offre à la location. Je vous donne juste deux chiffres. L'envolée en Argentine est de 170% de logements supplémentaires mis sur le marché. À Paris, en France, capitale de la France, depuis 3 ans, les mises en location ont chuté de 74%, Aude. 74% de logements en moins mis à la location. On a un énorme problème.
Eh ben voilà, on a une solution, c'est d'aller à Buenos Aires. En tout cas, si on veut rester à Paris, en France, sur l'immobilier neuf, il y a ça aussi, le dispositif Pinel Plus qui va toucher à sa fin à la fin de l'année. Et là, finalement, il ne sera pas remplacé. C'est quand même là aussi dommage, non, Charles ?
Alors, c'est dommage, je ne suis pas sûr. Voyez, par exemple, bon, c'est la présidente de Nexity, hein, Valérie Bédague, qui a justement fait cette proposition d'aligner la fiscalité de la location sur l'ensemble des autres placements, parce que, et sa proposition est très pertinente. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que on n'investit pas comme ça de manière théorique. Quand on est un investisseur et qu'on a 100 000 euros à investir, on va comparer les différentes classes d'investissement qui s'offrent à nous. Et on va aller là où il y a le plus d'intérêt à aller. Et donc, si vous prenez aujourd'hui un investissement financier, boursier ou même un compte à terme au sein d'une banque, eh bien, vous allez vous retrouver avec une fiscalité de 30% sur les bénéfices, ce qui n'est pas le cas sur l'immobilier. Et en plus, sans les risques liés à l'immobilier, l'occupation, les dégradations, les impayés, etc. Donc, vous avez tout intérêt aujourd'hui à opter pour un placement financier plutôt qu'à opter pour un placement dans l'immobilier. Donc, par rapport à ce que vous dites sur le Pinel, qui est effectivement une très bonne question, a-t-on besoin d'une loi de défiscalisation ? Et ce qui est sous-entendu dans les propos de Madame Bédague, la présidente de Nexity, je me permets de parler à sa place, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle a dit, mais c'est comme ça que moi, je l'interprète, c'est finalement, ne faisons pas une nouvelle loi de défiscalisation, mais soyons intelligents et mettons l'investissement immobilier sur la même fiscalité que les autres. Et c'est peut-être une excellente idée et à mon sens, ça serait beaucoup plus vertueux. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut arrêter de taxer plus pour après faire des lois pour détaxer et donc on fiscalise pour après faire de la défiscalisation. Tout ça n'a pas de sens. Il faut sortir de cette logique-là. Il faut arrêter de taxer plus pour qu'après l'État prenne plus d'argent pour redistribuer en fonction de là où ça ne va pas. Il faut sortir de là. Il faut que l'État se ressorte vraiment de cette mainmise de tout sur tout pour tout et de cet hyper-contrôle de tout. Allégeons la fiscalité, alignons-la, celle de l'immobilier et celle des placements financiers, et vous verrez déjà, ça ira sans doute beaucoup mieux, surtout si on rajoute là-dessus le fait de desserrer un certain nombre de règles administratives qui aujourd'hui étouffent complètement les investisseurs, et je pense notamment au contrôle des loyers, au contrôle des prix.
Oui, et puis ce serait totalement dans la lignée de la simplification, même administrative, mais aussi fiscale, hein, voulue en ce moment. Juste une dernière question, peut-être sur l'effet Jeux Olympiques. On sait que le marché est quand même un peu figé en ce moment. On a beaucoup justement de propriétaires qui attendent à la pré-JO pour peut-être remettre leurs biens en location ou non. Hein. Ça va dépendre. Justement, ça pourrait être le moment salvateur pour l'immobilier, que le gouvernement prenne conscience qu'il faut faire quelque chose.
Il faut que le gouvernement prenne conscience qu'il a étouffé le marché immobilier. Vous ne pouvez pas avoir de l'inflation, une hausse de la fiscalité qui est phénoménale, notamment avec la taxe foncière, un effondrement donc du rendement locatif. Vous ne pouvez pas avoir au même moment le fait que le gouvernement vous impose des rénovations qui sont extrêmement lourdes. Et j'attire votre attention là-dessus. Vous vous rendez compte que quand on demande à un propriétaire d'investir dans la rénovation de son logement, dans un marché baissier, il n'a pas de retour sur investissement. C'est la première fois au monde, dans l'histoire économique de l'humanité tout entière, que celui qui est investi n'est pas celui qui obtient le retour sur investissement. Et notre gouvernement de vedette et d'as de la finance se demande pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est simple. Demander à un propriétaire d'investir 60 000 euros dans la rénovation énergétique de son logement pour qu'un locataire puisse économiser 350 euros par an sur sa note de chauffage. Et nos vedettes du gouvernement se disent « Oh, mais c'est quand même étrange, ça n'a pas l'air de fonctionner. » Vous m'auriez demandé, je vous aurais expliqué pourquoi. C'est assez simple à comprendre. Donc, il faut évidemment sortir de ce carcan qu'on a imposé à l'immobilier, qui fait que ça ne peut pas fonctionner et qu'aujourd'hui, plus personne ne veut louer. Si à ça, vous rajoutez le fait que les locataires sont hyper protégés et que rien, et là, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je l'assume parfaitement, rien ne justifie que l'on surprotège un locataire. Et c'est exactement ce qu'a dit Mélie. Et Milei a raison là-dessus. On n'a pas à surprotéger un locataire. La location d'un logement est un contrat librement consenti entre deux personnes sur un bien qui a été visité. Il n'y a aucun mensonge. On voit l'état du bien, on voit l'état du loyer, on voit le prix du loyer. Ça plaît, ça plaît pas. On a le choix, on n'a pas le choix. Bref, il ne faut pas surprotéger les locataires. Quand on surprotège les locataires, eh bien, les propriétaires ne veulent plus louer. Et quand les propriétaires ne veulent plus louer, ils préfèrent payer les taxes des logements vacants. Et donc, que pense la mairie de Paris? La mairie de Paris ne se dit pas « on va desserrer le carcan ». La mairie de Paris dit « on va aller saisir les logements vacants ». On va prendre les logements vacants pour les forcer à être mis en location. Mais une fois que vous aurez fait ça à Paris, et une fois que vous aurez forcé les propriétaires à louer les logements vacants, ça peut sembler une très bonne idée à court terme. Mais à moyen et long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Plus jamais vous n'aurez quelqu'un qui a de l'argent qui ira investir dans l'immobilier, puisqu'on va le forcer à louer à des locataires surprotégés dont il ne peut rien maîtriser. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Vous aurez non pas une crise immobilière, mais une crise du logement telle que l'on ne l'a jamais vue, puisque je rappelle quand même au passage que l'État n'a pas d'argent pour construire. Alors, redevenons raisonnables. Le mieux est toujours l'ennemi du bien. Soyons simplement raisonnables dans la manière de gérer les relations locataires-propriétaires et évidemment la fiscalité de cet ensemble. Nous manquons cruellement de sagesse et de pragmatisme.
Raisonnable et pragmatique. Merci beaucoup Charles Sana d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Aude, merci tout le monde.